un incroyable ramassis de divagations astrologiques, chamaniques, fumistiques surtout. Je l'interrompis, connaissant ce genre de fléau. L'Europe n'en a pas été épargnée. Témoin du Christ, témoin de Jéhovah, témoin des derniers jours, libertaires libérés ou marxistes intégrés. On compterait aisément des centaines de ces sectes si l'on se donnait la peine, bien inutile à mon estime, de les compter. Cependant, j'avais lu, avec quel étonnement, que certaines d'entre elles réunissent jusqu'à 20 ou 30 millions de membres. Je le dis. Cela prouve, affirma Richard, que tous les aliénés ne sont pas dans les asiles. Le sujet lui semblait, comme à moi, épuisé. À Paloma, nullement. « Vous êtes de mauvaise foi, Richard, » dit-elle. De sa bouche, le mot est terrible. Les inconditionnels n'ont rien à voir avec tout cela, et adjorant moins que tout autre. Elle entreprit de nous l'expliquer. J'avais, je l'avoue, de la peine à suivre le raisonnement, sinon son front lisse et ses yeux trop graves. Toute sa personne contredit de sérieux propos. Ces gens dont parlent Ali, El, Raï et Julien, dis-je. Ils regrettent le passé, n'est-ce pas? Ils déplorent la technique, le progrès, je ne sais quoi. Ils voudraient nous ramener 2000 ans en arrière. Oui, dit Bouly, ce ne sont pas de mauvaises gens. Ils manquent d'imagination, c'est tout. Eh bien, Adjoran ne leur ressemble pas. De l'imagination, il en aurait à revendre s'il avait l'âme d'un commerçant. Je ne l'ai entendu qu'une fois, peu avant son arrestation. J'avais 11 ou 12 ans, mais cela m'a laissé une impression étrange. « Pourquoi l'avait-on arrêté ? » demandai-je. Raïti répondit. « Ce diable savait tout. » On ne s'étonne pas que, tant de savoir en tête, il ne se supporte plus soi-même sans un peu de poudre blanche. C'était en 1260, dit Raïti, juste après le mouvement revendicateur des itinérants. La répression, cette fois, devait être sévère. Nous ne pouvions admettre que tous les 10 ou 20 ans, quelques illuminés remettent en question l'acquis de la civilisation à coups de marche forcée, de grève ou de tuerie. Adjoran était un itinérant, dis-je. On l'a prétendu, sans preuve, il est vrai, mais ses discours confus permettaient de tout croire. Puis, il est de familles illustres, des Ben Bella par son père, par sa mère, des Lumumba, un drapeau pour tous les agitateurs. On l'avait condamné à la prison à vie. Il est probable que l'amnistie va le libérer en même temps que bien d'autres. Souhaitons qu'ils se tiennent tranquilles. Oh, c'est maintenant sans importance. Depuis un siècle et demi, tous les fanatiques misent sur un seul espoir, en somme. La guerre universelle et nucléaire de préférence. Toujours annoncée, toujours attendue, elle ne s'est jamais produite, sans quoi nous ne serions pas ici. Elle ne se produira plus. Les accords que l'on signe en ce moment à Delhi assurent l'humanité pour une paix de 1000 ans. Comme il prononçait ces dernières paroles, curieusement, Raïti me parut réciter une leçon plutôt qu'émettre un avis vraiment personnel, comme s'il avait voulu se persuader lui-même de ce qu'il avançait. Il me semblait plus là ou plus furieux que jamais. Ce fut alors qu'il lâcha sa bombe. Pour admirer ce genre d'homme, je parle d'Adjoran, il faut être une femme, avide d'émotions fortes et perdue de nostalgie pour les temps révolus où le mal faisait la loi.
« Vous parlez de moi, cher John ?» demanda Paloma.
Nous protestâmes avec vigueur, à l'exception de John Wrighty, silencieux. Mais Paloma souriait, indifférente au mépris du vieil homme. Puis Vern et Patterin nous rappelèrent que nous étions à une soirée dansante, et Paloma se laissa convaincre de nous donner une démonstration de Wold Woody. Patterin fut son partenaire. Plus tard, Rosa, la très jeune sœur de Paloma, vint nous rejoindre et nous dansâmes une bonne partie de la nuit. Fin du paragraphe du journal du 15 mai. Le 10 juin, avec une persistance qui m'humilie, me poursuivent les insinuations de John et la pensée de l'itinérant Adjoran. En vain, pour chasser le souvenir et la crainte, je fais appel aux sages railleries de mon grand-père, évoquant les terreurs de l'an 2000, dont il tenait le récit de son propre père. Note de la lectrice, ce roman a été écrit dans les années 50. Dont il tenait le récit de son propre père. À l'entendre, il ne s'agissait pas seulement de la crainte, toujours latente, d'une guerre entre l'Est et l'Ouest, ni des divagations de quelques inadaptés. L'idée que la fin d'un millénaire doit correspondre avec la fin de l'humanité, ancestralement, a bouleversé les hommes. Les Romains de César déjà redoutaient la fin de leur monde. Ce fut la fin de la République. Et les serfs de l'an 1000 moururent sans avoir compris que la prophétie de l'Apocalypse ne s'était pas réalisée. Commencée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une semblable attente craintive se nourrissait de toutes les prédictions funestes et de toutes les menaces. Le quatrain de Nostradamus, relatif au roi d'épouvante, l'an 1999, 7 mois, était journellement cité. De même, les prophéties de Catherine de Sienne, de Thérèse Neumann, du curé d'Ars, et j'en oublie. On publiait dans des revues scientifiques que le soleil se refroidissait et que l'humanité allait mourir de froid, ou bien qu'il se réchauffait et que les hommes allaient cuire, les mers devaient s'assécher, ou bien les continents être submergés par un nouveau déluge. De ces niaiseries, bien des gens souriaient, mais le sourire cachait une angoisse que nul raisonnement ne pouvait vaincre. À vrai dire, on ne craignait ni le soleil, ni les flots. On redoutait l'inconnu. Plus forte que l'évidence s'imposait aux esprits la terrible boutade « Les civilisations savent qu'elles sont mortelles ». Personne enfin ne croyait plus que les deux pouvoirs qui se partageaient la planète parviendraient à s'entendre, à se tolérer. Bien que, de 1948 à 1975, le double échiquier européen et africain eût été entre ses pouvoirs l'enjeu d'une partie somme toute pacifique. La domination croissante des USA sur l'Angleterre, l'Allemagne occidentale, l'Italie, puis la France, et celle de l'URSS sur la Pologne, la Roumanie et la Hongrie, l'Allemagne de l'Est, l'Autriche, la Yougoslavie et la Grèce, avaient 100 fois risqué de rallumer la guerre sans que ni l'Est ni l'Ouest ne commît le geste irréparable. En fait, les deux adversaires avaient bien d'autres soucis qui les retenaient de se jeter l'un contre l'autre. En ce qui regarde les USA,
ses soucis étaient de trois ordres. En Europe, la Confédération des Douze, France, Belgique, Luxembourg, Hollande, Danemark, République fédérale, Suisse, Italie, Norvège, Suède, Autriche et Grèce avant l'annexion russe, la Confédération des Douze offrait de vives résistances à l'expansion américaine. Révolte d'Orléans, d'Évreux, de Bruxelles, de Turin. En Afrique, les créations des deux empires du Maghreb et du Ghana, primitivement favorisés par Washington, soustrayaient à l'influence des Occidentaux d'une part la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, d'autre part toute la côte africaine atlantique du Libéria à l'Angola. À ces obstacles extérieurs s'ajoutait, last and least, l'importance croissante prise par les musulmans noirs au cœur même des USA. Leurs exigences, tant religieuses, l'érection d'une Mecque à Washington, que politique, un quart des sièges au Sénat, laissaient peser sur le pays une menace concrète et permanente. Une secte blanche, les fidèles du taureau, créée depuis peu et déjà puissante, appuyait ses revendications. Si bien que les élections de 1978 devaient ouvrir aux Noirs les portes du Sénat et celles de 1982 leur y accorder 28 sièges. La préoccupation centrale de l'URSS était toute différente. Un seul mot la contenait, la Chine. Maîtresse des plaines du Cachemire depuis 10 ans et des plaines de l'Asie centrale jusqu'au lac Baïkal depuis 1975, l'immense République menaçait l'URSS directement sur 8 000 km de frontière. En 1982, la signature d'un pacte entre la Chine, le Japon et le nouvel empire kurde prolongea ce danger sur 11 000 km jusqu'à la mer Caspienne à l'ouest, jusqu'à la mer d'Okhotsk en orient. On peut penser que cette expansion n'eût pas été possible sans l'aide occulte de l'Amérique, de même que l'expansion de l'État musulman et de l'Empire du Ghana ne l'eût pas été sans le soutien soviétique. En 1990, les choses ainsi en étaient arrivées au point où la moindre étincelle doit mettre le feu aux poudres. L'étincelle allait être la mort du roi de France et les troubles qui s'ensuivirent. Usurpation d'un d'Orléans, libération de la Bretagne, massacre des Yankees à Rennes, Quimper et Saint-Brieuc. Le 8 septembre 1992, les troupes anglo-américaines débarquaient dans les Landes, tandis que Rennes, à titre d'exemple, était anéantie par une bombe HT. Le 9, le nouveau roi prenait la fuite. Une assemblée républicaine et socialiste siégeait en France pour la première fois depuis 25 ans. Le 10, les républiques soviétiques déclaraient la guerre aux USA. Déclaration de pure forme, alors que les armées américaines conquéraient pacifiquement l'Italie et la France du Sud jusqu'à la Loire, les armées anglaises, les Flandres et le Danemark. Le nord de la France, la Wallonie, l'Allemagne fédérale et l'Autriche orientale se reconnaissaient républicaines socialistes et s'intégraient au bloc de l'Est, non moins pacifiquement. La nouvelle situation ainsi créée eût sans doute pu se maintenir longtemps, peut-être plusieurs siècles, car les peuples, on disait les nationalités, y trouvaient en effet leur compte, cependant que l'Est et l'Ouest se gardaient prudemment d'envenimer les choses. Mais, en cette même année 92, les Kurdes prenaient le pouvoir en Iran et commençaient d'envahir la Turquie par l'Est. Les armées asiatiques remontaient l'Indus et atteignaient la mer d'Oman le 13 février 93. En mars 94, une offensive générale se déclenchait sur tout le front de la mer Noire au détroit de Bering. En juin, Odessa tombait aux mains des Orientaux. En juillet, Tomski. En août, Orenbourg. En septembre, Novgorod. Moscou était menacée. Le 9 octobre, l'URSS signait un traité d'alliance avec les USA et obtenait le secours de leurs armes. Soit qu'ils fussent satisfaits de leur récente conquête, soit qu'ils craignissent un adversaire si formidable, un Occident enfin uni, les Asiatiques, dans les 4 années qui suivirent, ne poursuivirent pas leur offensive et n'exploitèrent pas leur succès. Mais en février 1999, les hostilités ouvertes reprirent avec une violence accrue. Impuissants à forcer les barrages de l'Ouest, les Jaunes s'attaquèrent à la Sibérie Nord et passèrent le détroit de Béring le 26 du mois. Pour la première fois dans l'histoire des USA, la guerre mondiale sévit en Amérique. Et les Illuminés, une fois encore, purent proclamer à grands cris le bien fondé de leur prophétie fumeuse. Il n'est pas jusqu'à la célèbre prédiction de Nostradamus qui ne parut se réaliser. En effet, ce fut en juillet 1999 qu'apparurent dans le ciel les boules de feu. Elles pleuvaient sur toute l'étendue de la terre, sur la Chine et le nouvel Iran, comme sur Québec et Washington, détruisant les plus hauts immeubles, incendiant les campagnes, faisant bouillir les mers. Universellement, un seul cri retentit. Les extraterrestres attaquent. Il s'agissait en fait, comme on le sut plus tard, d'un phénomène naturel provoqué par les imprudentes manipulations du plasma intergalactique par les astrochimistes et les biophysiciens à la recherche de l'arme absolue. Mais la panique avait été si grande et la terreur si salutaire qu'en août, les Jaunes et les Occidentaux signaient à Montréal le premier traité de paix universel. Dans l'euphorie d'avoir frôlé la fin du monde et d'y avoir échappé, ni les Orientaux ne parurent s'apercevoir que leurs frontières étaient repoussées au-delà de l'Oural, ni les Occidentaux se souciaient d'abandonner aux Jaunes l'Asie entière et toutes les îles du Pacifique. Ainsi s'est ouvert le 21e siècle. Le siècle doré, dont poètes et romanciers entretiennent encore de nos jours la permanente nostalgie.